la grandeur de Mu'ad.
Que cette chose immense en réalité est facile à séduire à qui Allah subhanahu wa ta'ala a facilité. C'est comme si indirectement le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui disait, cette tâche est facile à celui qui se met dans la posture de ceux à qui Allah facilite. Et il est important que tu te mettes dans la posture de ceux à qui Allah facilite. C'est pour ça que chaque jour, nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est à toi que nous implorons les secours, même dans cette adoration là. Parce que sans secours d'Allah, sans l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne pourra pas s'en sortir. Et quand on se met dans la posture de ceux qui bénéficient de l'assistance d'Allah, on bénéficie de l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. تعبد الله ولا تشرك به شيئا هذا هو أصل الأصول هذا هو أصل الأصول voilà la chose sur laquelle se reposent tous les fondements qui permettent d'accéder au paradis et d'échapper au feu de l'enfer. Le prophète a commencé par ça. Et hier, nous avons assez parlé de l'importance de l'apprentissage de la tawhid. Ou alors du tawhid. Le prophète sallam a dit, Ta'budullaha wa la tushrik bihi shay'a. La première chose, ce par quoi tu dois commencer, c'est que tu dois comprendre ce sur quoi se doit de reposer tous tes actes d'adoration. C'est que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala et que tu ne l'attribues aucun associé. Parmi les leçons que nous pouvons tirer de ce hadith, c'est que comme nous avons dit, At-Tawhid huwa awwalu ad-din wa akhiru wa zahiru ad-din wa batinu. C'est le début de la religion et c'est la fin de la religion de l'islam. C'est la religion de l'islam dans son apparence et c'est la religion de l'islam dans son cachet. La tawhid, c'est ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a créé ce bas monde. La tawhid, c'est ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a créé les hommes. La tawhid, c'est ce par quoi Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ses messagers. La tawhid, c'est ce avec quoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le livre. La tawhid, c'est le but nôtre. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Nous avons certes envoyé à tout peuple un messager qui avait pour messager adorer Allah subhanahu wa ta'ala et écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce par quoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a commencé par ce hadith. La tawhid, et c'est en quoi nos œuvres n'auront aucune valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit par rapport aux mécréants, وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Parce qu'ils œuvrent, les mécréants œuvrent. Mais leur adoration, leurs œuvres n'est pas basée sur la tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, et nous considérons ce qu'ils ont, nous allons considérer ce qu'ils ont comme œuvre, et ensuite nous allons l'éparpiller comme nous allons les transformer comme une poussière éparpillée. Parce que ces actes n'ont aucune valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que leurs actes manquent la matière de base qui est la tawhid. Et subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala dans un verset dit سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أنه حق. Allah dit, nous allons leur montrer des signes à travers la création et en leur propre personne. C'est-à-dire même comment ils vivent entre eux, dans leur conception, dans leur constitution. Nous allons leur montrer des signes afin qu'ils soient établis qu'Allah subhanahu wa ta'ala est vérité. Que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit est vérité. Que ce vers quoi Allah appelle est vérité. Parmi les signes, c'est que même chez les hommes, ils ont la conception de la matière de base sur laquelle se reposent toutes les matières. C'est pour ça que dans nos écoles, même les kuffars, même ceux qui sont les mécréants, ils refusent de se soumettre à la matière de base d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'eux-mêmes ils ont fait des matières de base. À l'école, quand vous faites un bac D, ça veut dire que votre spécialité c'est la science. Et votre matière de base c'est la science. Quand au bac vous avez 0 en science, si vous avez 20 en français, 20 en mathématiques, 20 en physique, 20, vous avez déjà échoué. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand vous avez 0 en tawhid, même si vous avez un bon comportement, même si vous vous occupiez des orphelins, même si vous priez, cela n'a aucune utilité parce que vous avez 0 dans la matière de base, vous êtes déjà disqualifié. C'est pour ça que le jour de la résurrection, ce ne sont que les œuvres de ceux qui ont la tawhid qui sera pesée sur la balance. Parce qu'ils ont la tawhid, c'est à cause de la tawhid que leurs œuvres seront pesées. Quand on me créa, leurs œuvres ne seront pas pesées. Si ce n'est pour déterminer le degré de l'enfer de tout un chacun. Alors que les œuvres des croyants seront pesées, pourquoi? Déjà pour voir s'ils vont être échappés au feu de l'enfer. Et même s'ils vont en enfer, la matière de base va les sortir de l'enfer. La tawhid. Donc c'est pour déterminer. Donc quand on pesera l'œuvre des croyants, ce sera déjà pour voir si leur œuvre et leur concrétisation de la matière de base leur permet d'échapper au fait de l'enfer. Parce qu'en tawhid, on peut ne pas avoir la note éliminatoire, mais avoir une sous-moyenne. Non, c'est possible. Et c'est à cause de la sous-moyenne qu'on va aller se purifier en enfer avant d'aller au paradis. Taïmdoum ? Taïm. Donc, la tawhid, c'est la matière de base. Et c'est pour ça que c'est par ça que Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a commencé. Et c'est par ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a commencé. Et comme nous avons dit, c'est le but de la création. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Puisque nous y sommes déjà. Le prophète dit, tu dois adorer Allah. Il faut qu'on comprenne donc c'est quoi le sens adorer Allah, de l'adoration. On ne peut pas parler d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala sans convoquer la tawhid. Sans convoquer le tawhid. C'est mieux de dire le tawhid parce que tawhid c'est un mot arabe et c'est un mot masculin. Donc si on veut parler du tawhid, on doit considérer que c'est un mot masculin. Oui. On ne peut pas parler d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala sans convoquer la tawhid pour voir si cette adoration se repose sur la tawhid. Parce que du point de vue islamique, on ne peut parler d'adoration d'Allah que lorsque cet acte d'adoration repose sur la tawhid. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, après nous avoir fait comprendre qu'il a créé les djinns et les hommes pour qu'ils l'adorent, il dit, il ne leur a pas ordonné de l'adorer si ce n'est en lui voyant qu'il est sincère et exclusif. Donc tous les actes d'adoration non, recommandés par Allah subhanahu wa ta'ala ont une condition. C'est que ces actes soient voués exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et c'est ça la tawhid. Ce n'est adoré que Allah subhanahu wa ta'ala. Taïf. Est-ce que lorsqu'on a adoré Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire qu'on est à l'abri du shirk? illa ji ta'budullah, tu dois adorer Allah. Mais est-ce que quand on a adoré Allah subhanahu wa ta'ala, c'est déjà l'adoration des différés? Le simple fait qu'on adore Allah, est-ce que cela fait de notre adoration l'adoration légiférée par Allah? Hada huwa fikhul akbar. On doit comprendre la tawhid. C'est ça le fikh, le grand fikh, la compréhension de la tawhid. Est-ce que le simple fait qu'on adore Allah fait de notre adoration l'adoration légiférée par Allah? Non. Jusqu'à ce qu'on adore que Allah subhanahu wa ta'ala en se détournant de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est pour ça que le prophète dit ta'budullah, tu adores Allah seul, wa la tushrik bihi shay'a, et que tu ne lui donnes aucun associé. Ça veut dire quoi, chers frères? Pourquoi est-ce qu'on insiste sur la tawhid? Pourquoi est-ce qu'on parle de la tawhid? Wallahi alladhi la ilaha ghayru. C'est lui qui est en danger, ce n'est pas le mécréant. Parce que le mécréant est déjà mécréant. Le mécréant est déjà mécréant, il faut comprendre. On parle de tawhid. On parle de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et du shirk. Et le shirk, c'est l'association. C'est l'association. Quand on parle d'association, ça veut dire qu'il y a deux choses qu'on a associé dans une chose, c'est-à-dire dans l'adoration. Ça veut dire qu'en réalité, c'est lui qui est le plus concerné par les tests qui mettent en garde contre l'association, c'est celui qui adore Allah et non le mécréant. Parce que c'est celui qui adore Allah qui peut tomber dans l'association. Puisqu'il adore déjà Allah, il adore un autre avec Allah, c'est ça? L'association. Donc c'est lui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a lancé ses mises en garde, c'est déjà celui qui adore Allah. C'est pour ça que Ibrahim alayhi salam, wa huwa yabni bayt Allah ma Ismaïl, il dit quand il construisait la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a plutôt invoqué qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de lui. Et parmi ses invocations, il a dit Wajnubni wa baniya anna abud al asnam, et épargne-moi et ma descendance de l'adoration des idoles. Ibrahim Atteni, l'un des pieux prédécesseurs, At-Tabi'il Jahilil, il dit wa man ya'mal al-bala ba'da khalil ar-rahman, qui est celui-là qui se sent à l'abri du shirk, de l'adoration de l'idole, des idoles? Quand Ibrahim lui-même ne se sentait pas à l'abri de telle sorte, à tel point qu'il priait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'en préserve. On ne doit pas se sentir à l'abri du shirk. On doit comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé que les humains. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé que les bons. Allah a créé le diable et les mauvais. Et il a fait du diable un ennemi juré pour l'homme. Et de l'homme un ennemi juré du diable. Et ne tombe dans la ruse du diable que celui qui ne le considère pas comme un ennemi. C'est pour ça qu'il nous a fait part de cette animosité qui existe entre le diable et nous, afin que nous soyons à l'abri des ruses du shaitan. Et les premières ruses par lesquelles les diables commencent toujours, c'est les ruses qui mènent à l'association. Parce que quand on tombe dans l'association, on perd sa qualité de musulman, de croyant, et on devient un mécréant. Et c'est ce que le diable veut de nous. Donc, c'est pour ça qu'on doit comprendre cette première base. Ta'budullah, wa la tushrik bihi shay'a. Et on ne peut parler d'adoration comme nous avons dit sans convoquer les tawhid. C'est pour ça que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit dans Qawaid al-Arba, wa alam anna al-ibadata la tusamma al-ibadata illa ma tawhid. Kama anna al-tahara la tusamma, kama anna al-salah la tusamma illa ma al-tahara. Ça veut dire que c'est une condition. Et la condition vient toujours avant, avant c'est pourquoi elle a été établie, c'est-à-dire la condition. Par exemple, la prière, du point de vue islamique, ne peut être considérée comme prière que lorsqu'elle est précédée par les ablutions. Ça veut dire qu'en réalité, l'adoration ne peut être considérée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que lorsqu'elle a été précédée par la tawhid. Lorsqu'elle est basée sur la tawhid, sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, il est établi qu'on ne peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Parce que maintenant on va développer le hadith Ta'budullah, on va développer ça. Après on va développer aussi Wala tushrik bihi shay'a. Ta'budullah. Tu adores Allah. Il est établi qu'on ne peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala que par le biais de la compréhension et de la maîtrise des trois fondements. Et c'est pour ça que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a écrit un livre intitulé Al-Usul al-Thalatha, les trois fondements, parce qu'en réalité on ne peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala qu'après avoir compris ces trois fondements. Et ces trois fondements sont les fondements qui font l'objet des questionnements dans la tombe. Parce que ce sont les fondements. Regardez. Parce qu'en réalité, c'est ces trois fondements qui déterminent si l'on est croyant ou non. Les questions qui seront posées dans la tombe. C'est pourquoi est-ce que tu avais dit tel propos au sujet d'un tel? Pourquoi est-ce que tu avais bouffé les biens d'un tel? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit dans la tombe? Non. Ce sont les trois fondements qui vont déterminer la suite. Ce sont les trois fondements. C'est pour ça que dans le hadith de Bara, déjà le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il enterrait quelqu'un, il disait toujours Is'alullah al-thabata li akhikum fa innahu al-ana yus'al. Implorez qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde la fermeté à votre frère qui vient d'être altéré, car en ce moment il est en train d'être interrogé. Quelles sont ces interrogations? Marwa Bouka, qui est ton Seigneur? Oma Dinouka, quelle était ta religion? Avant d'entrer dans les détails, tu dois répondre à ces trois. C'est les trois fondements. Marwa Bouka, qui est ton Seigneur? Oma Dinouka. Oman hada rajul lazi bu itabikum. Et qui est cet homme qui a été envoyé vers vous? Taïf, on parle d'adorer Allah, d'adoration d'Allah. Si tu ne connais pas qui est Allah, comment est-ce que tu pourras l'adorer comme tu te dois? Et si tu ne connais pas l'adoration légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala et celle qui l'agrée, comment est-ce que ton adoration pourra être celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiférée? Et si tu ne sais pas où est-ce que tu dois prendre cette religion, c'est lui par qui tu dois passer pour être sûr que ce que tu es en train de faire là est agréé par Allah subhanahu wa ta'ala, comment est-ce que tu pourras l'adorer? Donc, ta'budullah est impossible jusqu'à ce que tu maîtrises les trois fondements. Vous comprenez maintenant l'importance des ressources de Salasa et pourquoi presque tous les savants de la Sunna l'ont expliqué et pourquoi presque tous les savants de la Sunna l'enseignent, pourquoi presque tous les étudiants en sciences l'enseignent et sont assidus dans l'enseignement de ces trois fondements. Parce que ces trois fondements sont d'une importance capitale. On ne peut parler d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala que lorsqu'on aura compris ces trois fondements. C'est pour ça que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah dit I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu arba'i al-masa'il al-oula. Il dit sache qu'il incombe obligatoirement à tout croyant et à toute croyante d'apprendre quatre choses, de savoir quatre choses. Parce que ici, il parle du savoir. Il est un combat à tout croyant de savoir quatre choses, d'apprendre quatre choses. La première chose, c'est la science. Et la science auquel il fait allusion ici, c'est la science obligatoire. C'est la science obligatoire. Celle que se doit de détenir tout être. Celle qui fait de l'homme un croyant et un véritable croyant. Voilà, à l'île, la science. Et comme nous avons dit, il fait allusion ici à la science obligatoire. Voilà. وهي وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة نعم c'est la connaissance d'Allah. Ça c'est quelque chose que tu dois apprendre obligatoirement. Connaître Allah, tu dois apprendre à connaître Allah, c'est une obligation. Tu ne peux pas parler d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala sans apprendre à connaître Allah. Ma'rifatullah wajiba. La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala est une obligation. Tu dois connaître Allah. Et cette connaissance repose sur trois piliers. La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala repose sur trois piliers. Le premier pilier, c'est ma'rifatu rububiyatillah, ou ma'rifatu uluhiyatillah, ou ma'rifatu al-asma wa sifat. Connaître la seigneurie d'Allah, tu dois reconnaître, tu dois apprendre et reconnaître la seigneurie d'Allah. Mais seulement, dans ce premier pilier, Allah subhanahu wa ta'ala a facilité beaucoup de choses. En réalité, cette connaissance est une chose ancrée dans nos natures. Ancrée dans nos natures. C'est pour ça que même les mécréants vers qui Allah subhanahu wa ta'ala avait envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les Quraishites, ils reconnaissaient la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala et admettaient la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wala in sa'altahum. Man khalaqa as-samawati wal-ard? Fa yaquluna Allah. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont te dire Allah. Donc ils reconnaissaient la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cette connaissance naturelle doit être développée. Elle doit être développée pour susciter ce que cette connaissance se doit de susciter et d'impliquer obligatoirement. Ce qui conduit au deuxième pilier, qui est ma'rifatu uluhiyati Allah subhanahu wa ta'ala. La connaissance et la reconnaissance de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. En réalité, ce qu'implique automatiquement la reconnaissance de l'unicité d'Allah, c'est qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala tout seul. C'est qu'on lui voue l'adoration exclusivement. Parce qu'en réalité, tout ce que nous adorons, ou alors tout ce que ceux qui adorent, c'est toujours pour un but. Et ce but ne peut sortir de l'une des deux choses. Soit jouit d'une certaine protection, ou bénéficier d'un certain bienfait. Tous ceux qui adorent ce qu'ils adorent, c'est pour ce but. C'est soit jouir d'une certaine protection ou alors d'un certain bienfait. Soit c'est les deux. Pourquoi est-ce que nous adorons Allah? C'est pour bénéficier du paradis et être protégé contre le feu de l'enfer. Sachez que tous ceux qui adorent ce qu'ils adorent également, ce soir, pour bénéficier d'un certain bienfait et être épargné, non, ou alors jouir d'une certaine protection. Ne voyez-vous pas que celui qui attache les amulettes aux reins sur les bras, c'est pour jouir d'une certaine protection, mais seulement si ces derniers était un Dieu d'intelligence. Il allait comprendre que ces amulettes, qui sont généralement emballées sur des peaux d'animaux, pouvaient protéger. Non, ça devait commencer par protéger l'animal. Ça devait commencer par protéger l'animal. Certaines personnes utilisent souvent les cornes sans se poser la question comment la corne a fait pour se retrouver chez le marabout qui lui donne. Si la corne pouvait protéger, ça devrait protéger. Non, son détenteur de base, malgré ça, Allah va protéger. C'est celui qui ne maîtrise rien de la corne qui va faire que la corne protège. Abadan. Et c'est pour ça qu'en réalité, le shirk, comme nous allons le développer, n'est que le fruit de l'ignorance. C'est le fruit d'un manque de connaissance approfondie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya akhi, même avec le fléau qui est en train de sévir en ce moment, le trafic d'ossements humains, il y en a qui continuent à adorer les morts. Le même mort qui la donne à un voleur vient la nuit d'été, il prend les eaux, il part avec. Il ne se protège pas lui-même. Il n'arrive même pas à protéger ses eaux. On vient prendre ses eaux, on va écraser pour faire ce qu'il faut avec. Il ne se protège pas. Il y a quelqu'un qui croit encore à l'adoration des morts et qui va encore adorer ces morts-là. C'est le fruit de l'ignorance. D'un manque de connaissances approfondies d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit si on n'apprend pas à connaître qui est Allah, à comprendre ce que c'est que la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce que cette conception implique. Ça y est. Yahi, si on reconnaît que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les cieux et la terre, rien que cette reconnaissance de la seigneurie, qu'est-ce que cela devrait impliquer automatiquement? Yahi, regarde, observe seulement le ciel. Et médite, observe le ciel. Suis la grandeur du ciel. Est-ce que le ciel repose sur quelque chose? Est-ce que c'est tombé? Et médite sur la terre et comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Sur la grandeur de la terre et tu comprendras que il n'y a personne qui peut te protéger entre ces deux créatures que le créateur de ces deux créatures. Voilà ce qu'engendre cette compréhension profonde de la seigneurie. Ça oriente et implique automatiquement qu'on voue l'adoration à Allah. Parce qu'en réalité, comme nous avons dit, on adore ce qu'on adore que pour jouir d'un certain bienfait. Or, Allah est le détenteur de tous les bienfaits. C'est ce que nous montre la seigneurie. La seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le détenteur de tous les bienfaits. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Il n'y a aucun bienfait qui vous atteint si ça ne provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu sais que tout le bienfait provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et si tu sais que nul ne peut protéger si ce n'est Allah, et si ce n'est pas la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, et si ce n'est dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé, ça veut dire que c'est de qui que nous devons rechercher la protection. قال الله تعالى في حديث قدسي لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلم ان الامه لو اجتمعت الا ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو ان الامه اجتمعت الا ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك يا اخي ساش كتب لموند انتي se réunit pour t'aider, ils ne t'aideront qu'avec une chose qu'Allah t'a prescrit, yani qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi de t'accorder. Et si ces mêmes personnes se réunissaient pour te faire du mal,
il ne pourront rien contre toi si ce n'est quand Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de faire de toi. Pourquoi donc s'appuyer sur un autre en dehors d'Allah? Pourquoi donc vouer l'adoration à un autre en dehors d'Allah? Donc, le deuxième pilier, c'est sur lequel repose la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la reconnaissance de l'unicité d'Allah dans l'adoration. Qui veut dire que nous nous devons de lui vouer tous les actes d'adoration. Parce que si nous voulons échapper au feu de l'enfer et accéder au paradis, ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut nous permettre de réaliser cela. C'est Allah qui introduit au paradis, c'est lui qui protège du feu de l'enfer. Donc c'est lui que nous devons adorer. Ça c'est ce qu'implique, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son unicité. La reconnaissance de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, qu'il est le digne d'être adoré. Et c'est même ça le sens de la ilaha illallah. Quand nous attestons qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration à part Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que nous devons donner adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Lui seul, sans lui attribuer d'associé. Nous devons de lui vouer le culte exclusivement. Sans rien lui associer. C'est ça, ma'ana la ilaha illallah. Et hier, le cheikh a rappelé quelque chose ici, que c'est lui qui avait traduit le discours du roi, a mal interprété la tawhid en disant que la ilaha illallah, qu'il n'y a point de divinité à part Allah. Et le cheikh a expliqué ici hier, mais je me suis rendu compte que certaines personnes n'ont pas compris la subtilité de ce qu'il expliquait. Il a dit qu'en réalité, si on donne cette définition, il n'y a pas de différence entre nous et Ahl al-Hulul. Ahl al-Hulul, qui disent que tout ce qui est adoré, c'est Allah. C'est ce que cette parole veut dire. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Oh, on sait tout qu'il y a d'autres divinités ici dehors. Donc toutes ces divinités, d'après eux, c'est Allah. Oh, il y a des gens qui ont cette conception. Que quel que soit ce qu'on adore, c'est Allah. Tout ce qui est adoré pour eux est Allah. Parce qu'ils vont, ils vont jusqu'à dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala prend la forme. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala prend la forme de certains créatures. Et que ces créatures qui sont adorées en réalité sont Allah sous une autre forme. C'est ça leur conception. Et ce n'est pas pour rien. Vous savez que le soufisme, c'est un commerce terrible. C'est un commerce terrible parce qu'en réalité, les gens n'ont pas souvent le courage de le dire, mais pourtant c'est la vérité. C'est que le soufisme est basé sur comment retirer l'argent des poches des musulmans. C'est ça la vérité. Non, le but que veut atteindre les soufistes, c'est de posséder les musulmans de leurs biens. Et comme les musulmans aiment la religion et aiment leur Seigneur, ils ont compris que pour atteindre cet objectif, il faut passer par la religion. C'est pour ça que ceux qu'ils appellent les awliyas chez eux, pour le saluer, il faut que tu aies des billets. Et c'est des billets bien précis. Pour lui parler, il y a encore des offrandes à faire. Il faut entrer dans YouTube, regarder ce qui se passe au Sénégal. Ceux qui ont les pièces ne peuvent pas saluer les oliyas qui viennent avec les pièces. Ils ne peuvent pas les saluer avec la main. Pour saluer avec la main, il faut avoir le billet. Parce que c'est un wali. Et pour être un wali, pour atteindre le degré de la wilaya chez eux, il faut être passé par certaines choses. Et parmi les voies qui leur permettent d'accéder à ces degrés, comme ils prétendent, ils disent se voir Allah. Il y en a qui prétendent qu'ils ont vu Allah. Qui est le premier wali? c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand Aïcha radiallahu anha a entendu la parole d'Ibn Abbas, sans comprendre la suite, elle a fait un réplique à Ibn Abbas, parce qu'Ibn Abbas disait que le prophète sallam avait vu Allah. Quand Aïcha a écouté cette parole, il a dit « Naqad kaffa shari mimma » كف شاري مما سميته من قال ان محمدا راى ربه فقد كذب celui qui dit que le prophète a vu son seigneur et suscité a menti. Mais Aïcha avait compris autre chose et Mu'adh en réalité avait parlé d'une autre chose, parce que Mu'adh avait parlé de la vision du cœur qu'avait reçu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قال الله تعالى ما كذب الفؤاد Mara'a, le cœur n'était pas trompé sur ce qu'il avait vu cette nuit. Le cœur avait vu Allah, mais le prophète ne l'a pas vu de terre. Ce n'est pas une vision. Comment est-ce qu'on appelle la vision de l'œil? Non? Oculaire. Non, ce n'était pas une vision oculaire, mais c'était une vision du cœur. C'est pour ça que dans une autre version authentique, Ibn Abbas a dit Ra'a Rabbahu bi fu'adihi bi qalbihi. Il avait vu son Seigneur par le cœur. Oui. Ça, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est notre modèle. Il faut bien comprendre la charia. Ça veut dire que si c'est lui qui est notre modèle, il n'a pas vu Allah subhanahu wa ta'ala avec ses yeux. Personne ne peut le voir avec les Dieu. Et si personne ne peut atteindre le degré de la pureté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que s'il l'a vu avec le cœur, il faut bien comprendre, c'est parce que ce cœur avait bénéficié, non, d'un entretien particulier, d'un entretien divin particulier. Le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait été purifié par les anges à l'aide de l'eau du Zamzam. On a ouvert son cœur, on a retiré son cœur, on a purifié son cœur. Est-ce qu'il existe un autre cœur qui a subi cet entretien? Ça veut dire que personne ne verra Allah sur terre, ni avec les yeux, ni avec le cœur, après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez la conséquence de l'innovation? À cause de l'innovation, certaines personnes se retrouvent dans la mécréance sans s'en rendre compte. Prétendent avoir fait ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait. Oh, le simple fait que tu aies fait une chose que le prophète n'a pas fait. Que tu prétendes jouir d'un mérite que ton modèle n'a pas mérité. C'est problématique, c'est un problème sérieux. Donc, puisqu'ils veulent sortir, déposséder les croyants de leurs biens, ils ont créé toutes ces choses-là pour qu'on respecte ceux qu'ils prétendent avoir vu Allah et qu'on leur donne les biens. C'est ça la fin, c'est ça le résultat. Et c'est pour ça que quand tu lis dans Turk Sufiya, tu lis yani, les méthodes qu'ils utilisent, c'est cette akida-là qui avait été développée par le Sharia. Il commence à valider tout ce qui est adhéré en dehors d'Allah. Parce que quand tu vas commencer à grandir dans tout que Soufia, ils vont t'amener dans une chambre. Ils vont dire que tu as vu ça, tu as vu Allah, tu dis non. Oh, tu n'as rien compris. Tu as vu le multi, oui. Comment est-ce que tu dis que tu n'as pas vu Allah? C'est ça, chelou. Ils disent que Allah a pris la forme du lui, c'est Allah. Tout ce que tu vois là même, c'est Allah. Et quand la personne sort de la chambre, on dit que Balara, Manzila Talwila, il y a parce qu'il a vu Allah. Le gars, il a vu le même lieu que vous voyez. Mais seulement comme dans la Turque Soufi, quand tu atteins un degré, tu perds la raison. C'est comme ça. C'est pour ça que certains prédécesseurs disent que personne n'est entré dans le Soufi, mais est ressorti avec sa raison. Sauf celui qu'Allah a épargné. Oui! C'est ça la vérité. Donc, il faut comprendre le sens de l'attestation de la foi. La ilaha illallah. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. Parce qu'il y a plusieurs divinités qui sont adorées là-dehors et nous voyons. Comment on peut dire qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah? Nous avons dit que l'islam ne rejette pas la réalité. L'islam ne rejette pas la réalité. La réalité, c'est qu'il y a d'autres divinités en dehors d'Allah. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. C'est ça le sens de la ilaha illallah. La ma'bouda haqqun ou la ma'bouda bi haqqin illallah. Il n'y a pas de divinité. C'est ça. L'attestation de foi, c'est qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Et cette conception, c'est ce que implique automatiquement la conception de la seigneurie, de l'attestation de l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Il y a ici la créateur. S'il est le pourvoyeur, s'il est le pourvoyeur de subsistance tout seul, pourquoi est-ce qu'il devrait être adoré avec un autre? Si c'est lui qui protège tout seul, c'est lui qui enrichit tout seul, c'est lui qui appauvrit tout seul, pourquoi est-ce qu'il devrait être adoré avec un autre? Ça veut dire qu'en réalité, la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala implique qu'on lui voue exclusivement l'adoration. Yah, il a créé son monde seul. Il a créé son monde pour être adoré. Il a fait tout cela seul. Comment est-ce que ça peut avoir un sens qu'on adore donc un autre avec lui? Et pire encore, une autre créature. Alors qu'en réalité, tout ce qui existe sont là pour la concrétisation de l'unicité d'Allah. Écoutez bien, tout ce qui existe, existe pour la concrétisation de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même la nourriture, est-ce que vous savez ça? Même la nourriture. Parce que toutes ces richesses, c'est pour que nous recherchions à travers cette richesse l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Agrément qu'on ne peut obtenir si ce n'est pas le biais de la tawhid. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets, rappelle, commence par la seigneurie, par établir sa seigneurie, parce que sa seigneurie est une chose ancrée dans nos natures. Personne ne peut douter de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement, certaines personnes ont été déroutées par le diable et ont été touchées dans leur nature, si bien qu'ils ont pu faire ce qui est contraire à la nature. Parce qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'on fasse ce qui est contraire à la nature? C'est lorsqu'on suit le diable. C'est lorsqu'on suit le diable. Par exemple, est-ce que ça a un sens qu'une personne normale viole un enfant, par exemple? Est-ce que ça a un sens, ça? Ça n'a pas de sens, mais il y a des gens qui le font. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Parce qu'ils ont été touchés dans leur nature. Il y a qui on peut comprendre la fornication. Ce n'est pas légiférer, c'est un grand péché. Mais on peut comprendre que c'est une faiblesse, mais on ne peut pas admettre le viol. On ne peut pas comprendre qu'une personne viole une petite fille. C'est parce que c'est contre la nature. La nature n'accepte pas cela. Aucun homme normal ne pourra voir son parti bouger devant une petite fille. C'est comme ça dans la nature. Mais quand on est touché par le diable dans sa nature, il se peut qu'on fasse ce genre d'acte. Je veux qu'on comprenne la conséquence du fait qu'on soit touché dans sa nature. Et que lorsqu'on est resté dans la nature, cela implique automatiquement certaines attitudes. C'est-à-dire que lorsqu'on n'est pas touché dans sa nature, on comprend qu'on ne doit adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en réalité, c'est ce que implique automatiquement la seigneurie d'Allah qui est ancrée dans nos natures. Regardez, c'est pour ça que les mécréants, les Quraysh qui étaient des polythéistes et des associateurs, lorsque les gars empruntaient la pirogue, qu'en plein milieu des mers, ça commençait à balancer. Alors qu'ils avaient leur Dieu, leur divinité qu'ils adoraient en dehors d'Allah, qu'est-ce qu'ils faisaient? Yahri, ils se soumettaient à la nature. Ce n'est pas parce qu'ils craignaient Allah. Ils se soumettaient à la nature et invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala sous ce sang lui attribué la soutien. Quand ils arrivent pour une poule qui دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون.
Lorsqu'ils empruntaient la pirogue, le bateau, et qu'en plein mer, le vent commençait à balancer la mer, ils se rendaient compte qu'en réalité, toutes leurs divinités-là ne peuvent leur être d'aucune utilité. Et que dans cette situation précise, seul Allah subhanahu wa ta'ala peut les aider et ils se soumettaient à la nature. Qu'est-ce que cette conception naturellement implique? Qu'on invoque Allah, et c'est ce qu'ils faisaient. Ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala. En lui voyant l'invocation exclusivement. Il n'invoquait pas Allah avec leur divinité. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala les épargnait, et s'ils atteignaient l'autre côté, ils revenaient encore dans le shirk. Donc, la conception de la seigneurie implique automatiquement qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala tout seul. Et c'est ça le but de la création. Et c'est ça le sens de la ilaha illallah. La ma'bouda bi haqqin illallah. Qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala en lui voyant le culte sincère et exclusif. Maintenant le troisième pilier de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ma'rifatul asma wa sifat. C'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms et ses attributs. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms et ses attributs a voulu qu'on le connaisse. Allah nous a renseigné sur lui à travers ses noms et ses attributs. On ne peut réellement connaître Allah subhanahu wa ta'ala et l'adorer comme il se doit que via ses noms et ses attributs. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de l'adorer via ses noms et ses attributs. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Et Allah appartient les beaux noms. Adorez-le via ses noms. Saïd, comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms et ses attributs? C'est via la concrétisation des tawhid al-asma au sifat, la concrétisation de la tawhid dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses beaux noms et ses attributs. Dans un hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, pour expliquer comment est-ce qu'on adore Allah à travers ses noms et ses attributs, comment est-ce qu'on concrétise la tawhid al-asma wa sifat, le tawhid al-asma wa sifat. إن لله 99 اسما من أحصاه دخل الجنة. Il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou alors, Allah subhanahu wa ta'ala détient parmi ses noms 99 noms. Quiconque maîtrise ces 99 noms accédera au paradis. Parce qu'il faut comprendre le lien entre ces trois piliers de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se séparent et s'unissent. Parce qu'on ne peut pas se cramponner à l'un sans voir les autres. C'est-à-dire qu'ils ont des relations entre eux. Ces piliers ont des relations. فتوحيد الأسماء فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية.
La reconnaissance de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala implique automatiquement qu'on lui joue le culte exclusif. Ça c'est la relation qu'il y a entre les deux.
C'est que celui qui a compris à Rububiya comme il se doit, parce qu'on peut comprendre quand on comprend comme il se doit. C'est là qu'il y aura problème. Mais celui qui a compris à Rububiya comme il se doit, cela implique automatiquement qu'il voue le culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'Allah utilisait cela comme argument. Au Quraysh, qui admettait sa seigneurie et refusait de mettre en application ce qui implique cette reconnaissance. Taïf.
Et ce qui implique, ça c'est la relation entre Tawhidu al-Rububiyya et Tawhid al-Uluhiyya. Maintenant, la relation entre Tawhid al-Uluhiyya et Tawhid al-Asma al-Sifat, c'est que Tawhid al-Asma al-Sifat comprend Tawhid comprend quoi? Tawhid al-Uluhiyya. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de Tawhid al-Asma al-Sifat comme il se doit sans adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas comprendre sans adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en réalité, Tawhid al-Uluhiyya se trouve dans l'Asma al-Sifat. Vous avez compris? On va prendre un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith. Oh, le prophète dit dans le hadith, Allah subhanahu wa ta'ala a parmi ses noms 99 noms. Quiconque maîtrise ces 99 noms entre au paradis. Est-ce qu'on peut entrer au paradis si on n'a pas la théorie? Ça veut dire qu'on ne peut pas maîtriser ces 99 noms sans concrétiser la théorie. Maintenant, comment maîtriser ces 99 noms? Et est-ce que le hadith veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a que 99 noms qu'on a compris les soufis? Non. Vous savez pourquoi les soufis ont compris cela? Non. Vous savez pourquoi ils ont compris comme ils ont compris? Comment vous dites que vous ne savez pas alors qu'on a déjà dit ici? Parce qu'ils veulent déposséder les musulmans. Ils veulent regrouper les 99 noms et donner aux gens que voici les 99 noms d'Allah. Et celui qui a les 99 noms, il sera au paradis. Par conséquent, ça devient quelque chose à vendre. Non, il faut comprendre le hadith. Allah subhanahu wa ta'ala a plein de noms et plein d'attributs. Il a des noms qu'il nous a enseignés et des noms qu'il ne nous a pas enseignés. Il a des noms qu'il a enseignés à un nombre particulier, à une catégorie de ses serviteurs. Et il y a des noms qu'il a cachés pour lui-même. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait dans sa dua, il dit Allahumma inni asaluka bi kulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak ou anzalta bihi kitabak ou allamtahu ahadan min khalqik ou ta'atharta bihi fi ilmin ghaibi indak. Oh Allah, je t'implore par le bien de tout nom qui t'appartient. Ça c'est la globalité. De tout nom qui t'appartient. Fût-il un nom que tu as révélé, que tu as fait descendre sur terre, c'est-à-dire à travers la révélation. Parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala a révélé quelque chose, c'est pour toutes les créatures. Donc, que ce soit un nom que tu as révélé, que tu as fait descendre dans la révélation, et par conséquent, ça va être un nom que tout le monde peut connaître. Ou alors un nom que tu as enseigné particulièrement à un de tes serviteurs, c'est-à-dire l'une de tes créatures, les anges ou les prophètes. Donc, il y a un enseignement à tirer ici. Les soufis enfants ont une très mauvaise compréhension de ce paragraphe du hadith. Ils disent que le prophète a dit « Oh, Allah ta ahadan min khalqik » ou que tu as enseigné à quelqu'un parmi tes créatures. Wali dit qu'il a reçu un enseignement d'Allah et voilà son dalil. Et que même ce nom, même le prophète ne connaissait pas parce que c'est à lui qu'Allah a enseigné. Vous savez qu'en réalité, on est tombé dans ce genre d'ineptie que lorsqu'on ne convoque pas tous les tests pour comprendre les tests. Pour comprendre les tests, il faut réunir tous les tests. Toi qui es une créature d'Allah, tu as un modèle à suivre. Ça veut dire que ton modèle est au-dessus de toi. Et tu ne peux connaître que ce qu'Allah a montré à ton modèle. Or, il est établi que ce qu'Allah a enseigné à ce modèle, il y a d'autres choses qui lui sont particulières. Alors qu'on n'a rien de particulier qu'il n'a pas. Je ne sais pas si on a compris. Lui qui est notre modèle, il y a des choses qui lui sont particulières. Mais nous, on n'a rien qui nous est particulier par rapport à lui, parce que c'est lui notre modèle. On ne peut être que ce que nous aspirons, on ne peut être ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé que par lui, qu'à travers lui. Donc, le prophète Muhammad, donc Allah subhanahu wa ta'ala peut enseigner au prophète un nom particulier. Mais nous, on ne peut connaître le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala que par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas connaître un nom qu'Allah n'a pas enseigné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que ce n'est pas clair? Okay. On poursuit. Oh, ou alors un nom que tu as gardé dans la science de l'invisible auprès de toi. Ça veut dire un nom que personne ne connaît en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah, il existe plusieurs noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ces noms sont au-delà des 90. Sauf que, parmi ces noms, ces 90 ont une particularité. Quand quelqu'un dit par exemple que j'ai 1000 francs que j'ai prévu donner aux besogneux, est-ce que ça veut dire que tout ce qu'il possède, c'est 1000 francs? C'est ça que les sourds n'ont pas compris. Est-ce que ça veut dire que c'est tout ce qu'il possède, c'est 1000 francs? Mais ça veut dire que ces 1000 francs ont un statut particulier. Ce qu'il va leur accorder, il va accorder ces 1000, il a réservé ces 1000 francs aux besogneux. Donc, ces 90 noms ont une particularité. C'est que celui qui les maîtrise accédera au paradis. Mais maintenant, que veut dire maîtriser ces 99 noms? Point d'interrogation. Qui répond? Non, Chéti n'est pas dedans. Hein? Ça y est. Non, non. C'est le frère dit apprendre la tawhid et mettre en pratique. Non. Apprendre ces 99 noms et les mettre en pratique. Comment les mettre, comment est-ce qu'on les met en pratique? C'est ça la question. Non. Il a cité l'exemple. Il dit Ya Razak Urzukni. Donc c'est invoqué Allah subhanahu wa ta'ala par le biais de ses noms. Mais c'est une réponse incomplète. Non. Allahu Akbar. C'est connaître ces 99 noms. Ça c'est le début. C'est connaître ces 99 noms. Or, écoutez l'importance du Ousul de Salat. On ne peut connaître ces 99 noms que par le biais. Non? Que c'est par le biais? Bil Adilla. Que par le biais des tests de la révélation. Ça veut dire que c'est lui qui a compris ce hadith qui veut mettre en pratique, qui ouvre le Coran et dépose devant lui. Sort tous les noms d'Allah qui sont dans le Coran. C'est ça le début. N'attends pas que quelqu'un le rassemble pour toi. Man ahsaha, Seigneur, est-ce que c'est une petite affaire d'accéder au paradis? Il voudrait que tu t'assoies sur le Coran. Et que tu fouilles tous les noms d'Allah. Oh, dans le Coran, les noms d'Allah qui sont venus dans le Coran n'atteignent pas 99. C'est encore une preuve claire qu'on ne peut pas s'en passer de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que pour compléter les 99 noms, tu dois te référer à la sunna. Donc tu dois commencer par le Coran. Tu commences par la fatia, tu prends ton cahier dans lequel tu vas sortir les 99 noms. Et mettez ça au programme. Hein. Quand ces enseignements, ces hadiths nous concernent tous. Ce n'est pas pour une catégorie de personnes particulières. Nous aspirons tous au même paradis. Et nous devons le rechercher. La rechercher. Ou alors le rechercher. Ça y est. Donc, pour mettre en pratique ce hadith, on doit commencer par prendre le mushaf. De lire le mushaf. et de sortir les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont venus dans le Mus'haf. Après avoir signé avec ce nom qui n'atteint pas, et ce à l'unanimité des savants 99, on doit se référer à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour compléter. On doit prendre Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim, Sunan Abi Daoud, Sunan Ibn Majah, tous les sunan, tous les livres qui comportent les récits prophétiques authentiques. On doit les lire et fouiller minutieusement les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont été révélés. Vous voyez déjà que ce n'est pas un jeu, non? Man ahfaha nahra jannah. Saïd, après l'avoir fait, on doit les étudier un à un, non par non. Tu commences par Allah. Que veut dire Allah et quelles sont les implications de ce nom? Allah veut dire Al-Ma'bud, Haq, celui qui mérite d'être adoré. Ça veut dire l'adoré qui mérite d'être adoré. Ça veut dire que rien que ce nom t'oblige à être un mouahid. Le nom Allah t'oblige à être un mouahid. C'est pour ça que celui qui invoque le mot injure par Allah n'a rien compris de ce qu'il dit. Allah, le simple fait que tu dises Allah et que tu jures par Allah, t'interdit d'invoquer un autre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez la relation entre Tawhid al-Asma wa Sifa et Tawhid al-Uluhiyya. Parce que quand tu dis Allah, ça veut dire que tu as compris qui est Allah, que c'est lui l'adoré, qui est digne d'être adoré. C'est lui qui mérite d'être adoré. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache qu'Allah annahu ha ici renvoie à qui? À Allah. Sache que Allah est celui qui mérite d'être adoré. Sache qu'il n'y a point de divinité digne d'être adoré en dehors d'Allah. Donc ça veut dire qu'Allah est le digne d'être adoré. Quand tu le considères donc comme ton Seigneur, ça veut dire que tu devras l'adorer lui seul. Voilà ce qu'implique par exemple Allah. Ce nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le plus grand nom d'Allah subhanahu wa ta'ala d'après certains savants. Le nom à quel ou alors auquel renvoient tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que dans plusieurs versets, Allah a renvoyé tous les autres noms à ce nom. Ça veut dire qu'en réalité, c'est lui qui comprend la profondeur du nom Allah. Comprend tous les noms d'Allah et ce qu'implique tous ces noms. Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Man dhal ladhi yashaw indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Tout ça renvoie à Allah. Il a commencé par ça. Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. Allah, c'est celui dont il n'y a point de divinité digne d'être adoré si ce n'est lui. C'est lui Allah. Al-Hayy al-Qayyum, c'est lui qui vit d'une vie éternelle, qui ne connaît pas de fin. Al-Hayat al-Kamila, sa vie est parfaite. Sa vie est parfaite, contrairement à notre vie, qui est une vie imparfaite, qui est une vie pleine de manquements. C'est pour ça qu'on a besoin de dormir. Et à un niveau, on a même besoin de mourir. Si vous voulez comprendre, visitez les hôpitaux. Il y en a des malades qui eux-mêmes disent qu'ils ont besoin de mourir. Il y en a des vieillards qui eux-mêmes disent qu'ils ont besoin de mourir. Donc notre vie est une vie incomplète et la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala est complète. Al-Qayyum, الله أكبر. القيوم هو القائد.